Frères et sœurs, dans sa première lettre, saint Pierre exhorte les anciens des premières communautés chrétiennes à être des pasteurs, c'est-à-dire à veiller de bon cœur sur ceux qui leur sont confiés avec dévouement et en devenant modèles du troupeau. En entendant cela, nous avons bien sûr les paroles de Jésus ressuscité en tête qui s'adresse à Simon-Pierre qui à trois reprises lui demande « Simon, m'aimes-tu ? » Et puis Jésus à chaque fois confie à Simon-Pierre son troupeau « Paie mes brebis ». C'est dans une relation d'amour avec le Christ Jésus, une relation qui est toujours à entretenir, à faire grandir, à soigner, que Saint-Pierre reçoit cette mission. Nous pensons bien sûr aussi à l'évangile du bon pasteur, le bon pasteur qui connaît ses brebis, qui les appelle par leur nom, qui les protège contre tous les dangers, les menaces, à la différence des bergers mercenaires qui ne pensent qu'à leur profit, qui se désintéressent même de la brebis perdue. Le bon berger s'occupe de ses brebis, non seulement celles qui sont là, mais aussi celles qui ne sont pas encore dans la bergerie, celles qu'il doit rejoindre. Le bon berger voit très large et il donne sa vie. Nous avons enfin les conseils de l'apôtre saint Paul à Timothée, qui lui demande de raviver en lui le don de Dieu reçu quand on lui a imposé les mains. Être de bons pasteurs, être des modèles du troupeau, c'est bien sûr ce qui est attendu aujourd'hui des prêtres, des évêques, à qui sont confiés un diocèse, une paroisse, une aumônerie, une mission particulière dans l'Église. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, quelques instants sur la situation des communautés dans la première lettre de Pierre. D'une certaine manière, nous ressemblons à ces communautés, ces premières communautés chrétiennes d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, à qui Saint-Pierre s'adresse dans cette première lettre. Elles vivent dans une culture qui est dominée par le paganisme. L'apôtre Pierre les encourage à tenir bon et à frais nouveaux, il leur expose le cœur de la foi chrétienne qu'ils ont déjà entendu au moment de leur conversion, quand ils ont reçu le baptême. Il les exhorte à rompre avec leurs anciens modes de vie pour vivre dans la sainteté en raison de l'espérance acquise par le Christ pour eux. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, leur dit-il. Vivez donc en enfants de Dieu, dans la charité fraternelle, l'humilité, la simplicité. Il les encourage encore à avoir une belle conduite parmi les gens des nations, à être des hommes, des femmes de bénédiction. En somme, à être dans le monde sans appartenir au monde. Il les invite à la confiance et pour cela à répondre au mal par le bien, à persévérer dans l'hospitalité, dans le service les uns envers les autres. Enfin, à se tenir prêt, toujours prêt, à rendre compte, à rendre raison de leur espérance, mais en le faisant avec douceur et avec respect. Nous vivons en France, dans un pays de culture chrétienne, avec de nombreuses institutions, associations, inspirées par la foi chrétienne. Cependant, nous devons reconnaître que nous ne sommes plus dans une société chrétienne. Nous sommes une nouvelle minorité religieuse au sein d'une société majoritairement indifférente à la foi chrétienne, agnostique ou se disant athée, d'un athéisme plus pratique qu'idéologique. Notre foi est souvent incomprise et même contestée. Pour beaucoup, elle doit se cantonner à la sphère privée, ne pas se faire entendre au-delà. Ce que d'aucuns appellent les valeurs chrétiennes est de moins en moins partagé. Les fondements anthropologiques de la foi chrétienne sont relativisés, parfois même au sein de l'Église. Alors bien sûr, nous pouvons déplorer, regretter cette situation. Nous pouvons gémir, mais cela ne sert à rien, parce que l'Église n'est pas hors sol. C'est là que nous avons à vivre comme chrétiens, comme catholiques, aujourd'hui, et à poursuivre inlassablement la mission de l'Église par le dialogue, par l'annonce, l'annonce explicite dans ce contexte plurireligieux, pluriculturel. Alors comment être pasteur, être curé aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'a été demandé d'aborder avec vous? Je ne voudrais pas tout de suite faire une comparaison entre la période, l'époque dans laquelle a vécu le curé d'Ars, d'abord la Révolution française et puis le 19e siècle, et ce que nous vivons aujourd'hui. Dans cette affirmation « être curé aujourd'hui », je voudrais reprendre les occurrences du mot « aujourd'hui » dans l'Évangile selon saint Luc. Toutes ces occurrences sont liées à la question du salut. « Aujourd'hui, vous est né un sauveur », disent les anges aux bergers de Bethléem. « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre », dit Jésus à la synagogue de Nazareth, après avoir lu le rouleau d'Isaïe annonçant une année sainte, une année de grâce, un jubilé accordé par le Seigneur. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, dit Jésus à Zachée, ce pécheur public, converti à la générosité. Aujourd'hui, enfin, tu seras avec moi dans le paradis, dit Jésus sur la croix, au bon larron crucifié avec lui. À chaque fois, ces mentions du mot « aujourd'hui » sont liées au fait que le Seigneur veut nous sauver aujourd'hui. Être curé aujourd'hui, c'est donc prendre soin des âmes en étant au service du salut que Dieu donne aujourd'hui, en ne refusant pas d'espérer le salut, y compris pour ceux qui sont en marge, pour ceux qui ont du mal à croire, pour les pécheurs notoires, et même pour ceux qui sont condamnés à mort. Ce matin à la messe, il y avait un jeune baptiste qui avait un t-shirt sur lequel était écrit « Hier, maintenant, demain ». Et « Hier et demain » étaient rayés pour ne laisser apparaître bien clairement que « Maintenant ». Je l'ai félicité, c'est vraiment l'attitude d'un chrétien. Vivre maintenant, en tenant la main de Dieu, vivre au présent, vivre aujourd'hui. Et la meilleure manière de préparer l'avenir de notre Église et l'avenir du monde, c'est aujourd'hui d'accomplir ce que le Seigneur nous demande avec fidélité, avec persévérance, avec dévotion, avec implication, comme l'a vécu le saint curé d'Ars. Quand je suis devenu prêtre, une phrase du Concile Vatican II, dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres, m'a marqué par son équilibre. J'en ai fait un petit peu un axe de mon ministère, le lieu de sa vérification, mais aussi le lieu de sa joie. Cette phrase qui parle des prêtres dit ceci: les prêtres ne pourraient être ministres du Christ s'ils n'étaient témoins, dispensateurs d'une vie autre que la vie terrestre. Mais ils ne seraient pas non plus capables de servir les hommes s'ils restaient étrangers à leur existence, à leurs conditions de vie. Le quotidien d'un prêtre, d'un curé, et j'étais jusqu'à il y a peu de temps curé, j'ai beaucoup aimé ce ministère, le quotidien d'un prêtre, d'un curé, est fait de cette amitié forte avec le Christ, le bon pasteur, le chef des pasteurs, mais aussi de ce lien avec des personnes que nous découvrons, que nous nous découvrons aussi capables d'aimer. Un ami m'a posé la question, au bout d'un an de ministère épiscopal, quelle a été ta plus grande joie? Je lui ai dit, laisse-moi une journée pour réfléchir, parce que je ne veux pas répondre comme ça, trop rapidement et de manière trop banale. Et puis je lui ai répondu le lendemain, ma plus grande joie, vois-tu, c'est de découvrir que le Seigneur me donne et me façonne un cœur qui est capable d'aimer tous ces habitants de la Drôme, quels qu'ils soient, et qui sont confiés à mon ministère. Le Seigneur élargit mon cœur pour les aimer. C'est ma principale, ma plus grande joie. Je suis aussi marqué par le fait que ce qui reste du ministère d'un prêtre, parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans, après qu'il ait quitté telle paroisse, après qu'il soit décédé, ce ne sont pas les grands projets qu'il a menés, mais c'est la bonté et l'écoute dont il a été capable pour accompagner les personnes, les familles, pour être proche. Et ça, on en parle. Même des décennies après, on nous dit « tel prêtre, il a été capable, ce jour-là, de m'écouter, de m'accompagner, de me soutenir, de me donner de l'espérance. » Voilà ce que doit être d'abord un curé. Nous portons le trésor de savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que ce salut est déjà accompli dans le Christ Jésus mort et ressuscité. Jésus, dont le prénom signifie d'ailleurs « le Seigneur sauve ». C'est notre trésor le plus grand, nous les chrétiens. Et ce trésor rejoint les aspirations de nos contemporains aujourd'hui, qui cherchent des chemins de guérison, qui cherchent aussi à savoir ce qu'il y a par-delà la mort. Chaque fois revient ce désir d'être guéri, d'être libéré, d'être sauvé. Je suis marqué par le fait que dans les lettres des catéchumènes revient maintenant de plus en plus ce terme « salut », ce terme « sauvé ». Entre la société et l'Église, au cœur desquelles le curé d'Ars a exercé son ministère, et la société et l'Église de 2025, où des curés exercent leur ministère aujourd'hui, les différences sont nombreuses, bien sûr. Et je ne vais pas être exhaustif. Nous ne sommes plus dans une société villageoise, rurale. Les sciences et les techniques se sont beaucoup développées. Elles ont donné un rythme nouveau, rapide. L'illusion aussi que nous pouvons avoir une certaine maîtrise sur ce qui se passe. Or, nous nous découvrons aussi très fragiles. La foi chrétienne, je le disais, dans notre pays est devenue minoritaire. Le nombre de prêtres est bien moindre. Un curé ne se voit plus confier simplement un village, mais plusieurs villages, un nombre important de clochers, parfois jusqu'à 50 clochers, ou une population importante, souvent plus de 10 000 personnes. La collaboration se vit avec des diacres, avec aussi des fidèles laïcs à qui ont été délégués des responsabilités importantes. Un curé ne reste plus tout son ministère dans la même paroisse. La révélation des violences sexuelles commises par des prêtres, ne permet plus non plus de parler de la même manière du sacerdoce. J'ai lu une citation du curé d'Ars qui est belle, qui est juste, mais qu'il serait difficile de dire partout aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit, je cite. Vous dites, mais le prêtre, c'est un homme comme un autre. Et ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Certainement, répond le curé d'Ars. Il est composé d'un corps et d'une âme comme un autre. Mais c'est son ministère qu'il faut regarder. Le prêtre est investi des pouvoirs de Dieu, des pouvoirs de Dieu même. Je vous envoie, dit Jésus à ses apôtres, comme mon Père m'a envoyé. L'essentiel n'est pas tellement dans les différences entre ce qu'a connu le curé d'Ars comme situation de la société et de l'Église et ce que nous vivons aujourd'hui, mais plutôt dans ce qui demeure, dans ce qui est constant, dans ce qui est toujours l'aujourd'hui, le présent d'un curé, d'un prêtre. Un curé reste toujours quelqu'un d'envoyé. Ce n'est pas lui qui choisit sa paroisse, ce ne sont pas ses paroissiens qui le choisissent. Il ne se donne pas sa mission, il la reçoit de l'Église. Il la reçoit aussi dans la foi du Christ, du Seigneur. Un curé est toujours envoyé pour aimer des personnes qui sont confiées à son ministère, pour être près d'elles un homme de Dieu, un témoin, un dispensateur de la vie déjà éternelle, de la vie de résurrection. Et nous devons soutenir les prêtres dans leur célibat, ce célibat qui est d'abord signe du royaume. Ce n'est pas d'abord une question disciplinaire, comme on le dit trop souvent. Le célibat est d'abord signe du royaume de Dieu, que nous sommes faits pour la vie éternelle, pour la résurrection, que c'est là le but de notre vie. Alors soutenons nos prêtres, nos curés, dans le choix du célibat, un choix difficile, mais un choix beau, qui parle, qui interroge. Un curé a toujours la triple charge d'enseigner, de sanctifier ceux qui lui sont confiés et de gouverner la communauté paroissiale. La manière de gouverner a pu changer. Je voudrais que nous ne parlions pas tant de synodalité, mais plutôt que nous la vivions à travers, bien sûr, les conseils qui existent dans les paroisses, les conseils paroissiaux, conseils de pastoral, conseils économiques, mais aussi avec des secrétaires, des assistants, d'assistantes paroissiales, avec des personnes à qui on peut confier toute la dimension économique, des économes de paroisse, comme il existe des économes dans les diocèses, qui rendent compte au curé, mais qui portent cette réalité. Pour permettre au curé d'être vraiment disponible à ceux et celles vers qui il est envoyé. Un curé est toujours en lien étroit avec son évêque, mais aussi avec ses confrères prêtres dans un même presbytérium, avec les autres curés, notamment du doyenné, avec les vicaires ou d'autres prêtres qui partagent son ministère. C'est dans une relation vivante et proche avec le Seigneur, et aussi dans son ministère auprès des gens, qu'un curé est sanctifié, qu'il trouve la manière de grandir dans son cœur de pasteur, qu'il est progressivement façonné. Il devrait y avoir partout dans les paroisses non seulement des lieux pour les confessions, mais aussi des lieux d'accueil et d'écoute. Tant de personnes ont besoin de parler aujourd'hui. Le curé, aujourd'hui comme hier, doit exprimer la proximité de Dieu. Il doit signifier par sa manière de vivre, par son ministère, que Dieu est proche. Et pour cela, il ne peut pas faire l'économie de connaître ses paroissiens, même s'ils sont nombreux, de les visiter et de les aimer. En bref, un curé, il faut que ce soit un saint. C'est ce que disait le curé d'Ars aux évêques, à son évêque de ce temps-là. Si vous voulez convertir votre diocèse, on confie ça au Seigneur, Dieu merci, il faut faire des saints de tous vos curés. Voilà une mission importante, exaltante. Aujourd'hui, une des difficultés, c'est que nous manquons de curés. Et tous les prêtres ne sont pas nécessairement faits pour être curés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons prêtres. Le curé ne doit pas non plus devenir un manager, un grand organisateur. Voilà, quelles collaborations sont à encore déployer, à inventer, pour aider le curé à être vraiment au rendez-vous de ce pourquoi il est fait. Pour aujourd'hui, je voudrais donner quelques points particuliers. Insister sur les visites pastorales. Les évêques font des visites pastorales, mais il est bon que les curés fassent aussi des visites pastorales, surtout si leur paroisse est étendue, qu'ils consacrent 2-3 jours par mois à aller visiter les personnes, les associations, les élus, les agriculteurs, et le faire avec d'autres paroissiens. Préparer ces visites et les relire. Comment dégager le temps nécessaire pour ces visites? Il est essentiel. Comment regarder aussi chaque jour si le prêtre, le curé, a pu vraiment parler en profondeur avec plusieurs personnes, rencontrer vraiment ceux qui lui sont confiés, puisqu'il est fait pour cela. Comment aider, et ça je le dis à vous tous, un curé dans son ministère? Eh bien, je répondrai en lui faisant appel pour ce pourquoi il est fait. Vous accompagner dans la croissance de votre foi, dispenser les sacrements, et non pas répondre à toutes les questions, toutes les sollicitations, comme s'il était un couteau suisse et qu'il pouvait répondre à tout dans les moindres détails. Les curés sont épuisés, on leur demande tout, surtout, tout le temps, quantité de détails, au lieu de se concentrer sur l'essentiel de ce pourquoi ils sont faits, révéler un Dieu qui aime, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui marche avec nous. Les curés ont à veiller aujourd'hui à impulser une dynamique missionnaire dans les paroisses. Nous ne pouvons pas rester dans l'entre-soi. Les papes successifs nous invitent à sortir de simplement le confort d'être ensemble pour aller vers, aller à la rencontre de ceux qui peut-être ne viennent jamais à l'église et qui pourtant sont touchés par la visite d'un chrétien et encore plus par la visite d'un prêtre. Les curés ont à veiller, je ne vais pas être beaucoup plus long, à la formation des personnes, des fidèles, et à la structuration de la communauté paroissiale. Nous savons combien le curé d'Ars a veillé à cette catéchèse solide pour former ses paroissiens, pour les impliquer, y compris dans la dimension d'engagement social et éducatif pour tous les habitants. Je termine avec simplement deux citations de l'encyclique de Saint Jean XXIII pour les 100 ans de la mort du Saint curé d'Ars. D'abord, il s'adressait aux évêques en leur disant « C'est à vous, évêques, que revient la responsabilité de la sanctification de vos prêtres. Nous vous recommandons de les aider dans les difficultés parfois graves de leur vie personnelle, de leur ministère. Que ne peut pas faire un évêque qui aime ses prêtres et qui a gagné leur confiance, qui les connaît, qui les suit de près, qui les guide, avec une autorité ferme et toujours paternelle ? Aujourd'hui, nous avons à aider les prêtres à trouver des lieux de ressourcement, mais aussi d'accompagnement spirituel qui les aide à toujours grandir dans leur vie spirituelle, mais aussi dans leur formation permanente pour exercer leur ministère avec goût, avec enthousiasme, avec joie. Deuxième citation, Saint Jean XXIII s'adresse aux fidèles, à tous les fidèles. C'est aussi à tous les fidèles que nous demandons de prier pour les prêtres et de contribuer pour leur part à leur sanctification. Aujourd'hui, les chrétiens fervents attendent beaucoup du prêtre. Ils veulent voir en lui, dans un monde où triomphe souvent la puissance de l'argent, la séduction des sens, le prestige de la technique, un témoin du Dieu invisible, un homme de foi, oublieux de lui-même et plein de charité. Qu'ils sachent bien, ces chrétiens, qu'ils peuvent beaucoup pour la fidélité de leur prêtre à un tel idéal, par un respect religieux de leur caractère sacerdotal, par une plus exacte compréhension de leur tâche pastorale, de ses difficultés, et par une plus active collaboration à leur apostolat. Prions donc pour tous les prêtres, prions donc pour les curés, en cette fête de Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les curés de l'univers, qu'ils puissent trouver près du Seigneur, près du bon pasteur, la force et la joie d'exercer leur ministère de manière détendue, de manière accueillante à la volonté du Seigneur, de manière aussi donnée et zélée. Amen.